Voyage Cast épisode 50, des Indiens, des arbres et un grand barrage. Bonjour et bienvenue dans ce 50e épisode de Voyage Cast. Un joli chiffre quand même, surtout pour dire que j'avais commencé pour en faire 5 et puis 10, et puis passer la trentaine et puis maintenant 50. Prochain objectif, c'est la centaine, et ça va être dans un petit moment quand même, mais je suis certain d'y arriver. Cette fois-ci, mon invitée est Anne-Laure, elle est aussi résidente de la Villa du Grand Bivouac, comme moi et comme deux autres invités de Voyage Cast, vous en avez donc déjà entendu parler. Anne-Laure est en étude d'anthropologie, elle a pour objectif de faire un documentaire qui va parler du Belo Monte, cet énorme barrage encore en construction en Amazonie qui a une influence considérable sur la vie des gens sur place. Alors vous allez peut-être vous dire, ça va être un truc d'écolo qui vont défendre les pauvres Indiens dans la forêt et détruire le méchant capitalisme. Eh bien, pas forcément. Anne-Laure a eu la chance d'aller sur place et donc de se rendre compte de la situation et de l'influence que ça avait vraiment sur les gens, en dehors des campagnes marketing, tant des industriels que du côté des protecteurs de la nature. Et c'était justement l'intérêt de la recevoir, de parler de toutes ces choses, on l'espère d'un point de vue équilibré, forcément un peu subjectif, qui ne l'est pas, mais en tout cas en essayant d'être le plus honnête possible sur la situation là-bas. Et puis on a parlé de voyage, bien entendu, puisque c'est un grand voyage que d'aller jusqu'en Amazonie. On a parlé un peu des gens qu'il y avait sur place. Et puis de toute l'imagerie autour de ces Indiens, autour de ces tribus. On les imagine d'une certaine manière, c'est normal, on a été influencé pour les imaginer de cette manière-là. Comment ça se passe sur place? Eh bien, on a essayé de répondre à la question dans ce podcast. Avant de lancer l'interview, sachez que ce qui va suivre, c'est la voix de Vincent Cassel et elle est dans un spot publicitaire, si j'ose dire, qui vise à défendre les Indiens en Amazonie, justement avec ce chef Raoni. Si vous avez l'occasion, avant ou après d'avoir écouté ce podcast, de voir ce spot, vous verrez que c'est assez sympathique et que l'imagerie utilisée est plus qu'intéressante. Bref, on essaye un peu d'affûter notre sens critique et d'aller là où ça se passe. Bienvenue sur Voyage Cast.
Trop d'entreprises françaises sont associées à la destruction de l'environnement en Amazonie. Aujourd'hui, plus que jamais, les Indiens sont assassinés, leurs droits bafoués, leurs rivières empoisonnées. Le barrage du Belo Monte s'attaque au cœur encore intact de la forêt amazonienne. Agissons maintenant. Soutenez le combat du chef Raoni. Cette cause est notre cause. Quand nous jouons notre avenir, eux jouent leur vie. Il faut que le fleuve Xingu coule librement. Stop au Belo Monte. Stop à la déforestation.
Bonjour et bienvenue sur Voyage Cast. Ici Jonathan, comme d'habitude. Et puis aujourd'hui, ce soir, on a Anne-Laure. Salut Anne-Laure.
Salut Jonathan.
Mais alors, comment vas-tu aujourd'hui en ce beau jour ensoleillé?
Ah bah, plutôt pas mal, même si c'est pas très ensoleillé chez moi. Et toi?
Eh ben, il faut venir en Suisse, parce que chez moi, c'est ensoleillé, il fait beau. C'est génial. Alors, on te reçoit aujourd'hui sur Voyage Cast pour plusieurs raisons. Déjà parce que t'es une fille super intéressante, ethnologue. Tu as un blog que je vous conseille vraiment à aller lire. Je vous mettrai le lien sur Voyage Cast parce que t'as un nom hyper compliqué pour ton blog, malheureusement. On y reviendra. Tu fais aussi partie des sélectionnés de la Villa du Grand Bivouac. Tu es la troisième à passer sur Voyage Cast. On avait déjà reçu Clément.
Ouais.
Qui nous avait parlé de photographie et qui nous avait évoqué quelques thèmes assez intéressants. On avait parlé du Machu Picchu, on avait parlé des mines de Potosi en Bolivie. Et puis j'avais reçu Julien dernièrement, qui était venu, c'était un numéro un peu freestyle, où il nous parlait un peu de ses voyages, de sa façon de voyager et puis des associations. Et puis toi, tu es donc la troisième et je voulais déjà vous dire qu'il y a une quatrième qui va passer, qui va nous parler des Hadzabé.
Ah, je crois savoir qui c'est.
Eh oui, le petit poussin intergalactique qui va passer chez nous. Bref, on est une grande famille, voilà, on s'aime tous et on a tous des sujets très intéressants. Et ce soir, tu es venu nous parler, alors tu vas tourner un documentaire, c'est pour ça que tu fais la villa, et tu vas nous parler justement d'une communauté au Brésil, ou plutôt de plusieurs communautés, et d'un problème dont on a globalement tous entendu parler, qui est celui de Belo Monte, Résume-nous en très bref ce que c'est Belo Monte. On va te suivre ensuite dans ton voyage jusque là-bas. Puis ensuite, on va parler des problématiques autour de ça.
Alors, donc pour faire bref, le Belo Monte, c'est le troisième plus grand barrage hydroélectrique du monde, qui est en construction depuis 3 ans en Amazonie et qui menace de déplacer plus de 40 000 personnes et de modifier la région. Donc du coup, les gens se battent pour que ce barrage n'existe pas. Mais il continue.
D'accord. Tu sais pour quand c'est prévu la fin de ce barrage, si ça continue?
C'est prévu pour 2017, la mise en marche, ouais.
Donc on est assez proche de ça. Bon, On va en discuter beaucoup plus en détail après, justement, des impacts que ça a. Et ton regard d'ethnologue va nous être vraiment utile pour ce genre de problème-là. Je suis très content de t'avoir sur VoyageCast pour parler de ce genre de sujet un peu plus sérieusement que moi-même je pourrais le faire en lisant Wikipédia ou ce genre de choses. Et vu que tu as été, tu as vraiment un joli regard sur la chose. Alors d'abord, aller en Amazonie, bon, comment on fait? Pourquoi t'as été déjà? Voilà, première question, pourquoi t'as été là-bas?
Alors pourquoi là-bas? C'est le sujet qui m'a attiré vers l'Amazonie. Alors comment j'en suis arrivée à ce sujet, j'avoue que ça reste assez flou, mais ça m'a tout de suite intéressée, cette histoire de développement plus ou moins forcé, de résistance locale, etc. Et comme j'avais de la famille, j'ai un cousin en fait qui vit en Amazonie, que je n'ai jamais rencontré mais qui vit là-bas, et qui du coup a pu me donner pas mal d'infos et qui m'a dit en gros « vas-y, viens quoi ». Donc du coup, je suis partie, j'ai pris l'avion, alors j'ai fait quelques détours. Pour dire vrai, je ne suis pas allée directement en Amazonie. J'ai atterri en avion à Rio et je suis allée dans la région du Paraná où est construit le deuxième plus grand barrage du monde qui s'appelle Itaipu et qui, lui, est fini depuis maintenant bien 30 ans pour voir un peu voilà, ce que c'était une fois terminé. Quoi. Ce qui pouvait se passer, c'est un peu un regard comment ça sera dans 30 ans en Amazonie, là où j'allais aller.
D'accord. Et donc ça, c'est le premier endroit où tu as été au Brésil.
Donc, Fosse do Iguaçu, il y a aussi des grandes chutes d'eau très touristiques.
Ben oui.
Voilà.
On avait déjà parlé sur VoyageCast d'ailleurs.
Eh ben voilà, c'est là-bas.
Et alors, juste, on va faire un petit arrêt là. Ça ressemble à quoi, un grand barrage comme ça? Alors, ça va être impressionnant à voir, quand même, deuxième du monde.
Ouais, c'est impressionnant. C'est beaucoup.
C'est quoi? C'est juste une grande étendue d'eau. Il y a des villes à côté. Et c'est au milieu de la forêt. Ça se représente comment pour nous qui avons jamais vu ça en fait?
Il y a un énorme réservoir qui s'étend sur je ne sais pas combien de kilomètres, avec donc un grand barrage où il y a d'ailleurs quelques graffitis qui ont été dessinés, c'est assez joli. Et donc, c'est ce gros truc de métal, qu'est-ce que je raconte? De pierre qui sépare la forêt. Donc, la ville n'est pas à côté, donc on ne voit pas directement la ville, c'est vraiment au milieu de la nature, quoi. Au milieu de la nature, d'un coup, c'est assez choquant, en fait, pour dire vrai.
Mais c'est choquant dans le sens où, enfin, je sais pas.
Ça fait décaler, quoi. Parce qu'on arrive, voilà, on est dans la forêt du sud du Brésil, c'est sympa, c'est beau, et puis d'un coup, c'est tout plat, et il y a cette énorme étendue d'eau, et puis il suffit d'imaginer que 80 mètres en dessous, avant, il y avait la forêt, des arbres et des paysans qui habitaient, et maintenant, c'est des eaux mortes, quoi.
Des eaux mortes. On va pouvoir en parler après, mais je trouve que ce point-là est vraiment super important. Parce que chez nous, par exemple, pour prendre l'exemple en Suisse, on a aussi des barrages qui sont en montagne, qui sont relativement intégrés dans le paysage.
C'est
franchement, on y va se balader le dimanche. Hein, parce que c'est très joli, il y a des petites fleurs à côté.
Alors, c'est très touristique aussi. Hein, y a beaucoup de gens qui viennent le voir. Le problème, après, voilà, c'est la taille. Comme tu dis, des petits barrages n'ont pas les mêmes implications que des grands barrages et des grands projets de développement. Quoi. C'est là un peu tout le problème.
D'accord, alors voilà, première petite version de ce grand barrage. Mm-mm. Et ensuite, de là, alors, tu as été dans l'Amazonie. Alors là, comment t'y vas? Enfin, je ne sais pas, t'y vas en jeep, t'y vas en petit avion, un peu comme dans les Tintins.
De là, j'ai pris l'avion jusqu'à Belém, qui est qu'on appelle les portes de l'Amazonie. Donc, c'est la capitale de l'État du Pará, parce que le Brésil est un État fédéral, donc il y a tout plein de petits États. Et l État où j'étais, c'était donc celui-ci. Et donc de Belém, alors je voulais prendre le bateau, mais ça a été un peu compliqué sur place pour trouver. Les gens, ils me disaient que c'était pas possible d'aller où je voulais aller, parce que c'était pas touristique, tout ça. Donc finalement, j'ai pris le bus. Donc le bus, c'était 22 heures sur la Transamazonienne. Donc je sais pas si tu vois la Transamazonienne. C'est une immense route qui est censée relier le Brésil jusqu'au Pérou, à travers l'Amazonie.
Ah ben c'est pratique, plus besoin de prendre d'avion.
Voilà. Donc voilà, départ sur la Transamazonienne. Forcément, au bout de 2 heures de route, le bus tombe en panne.
Étonnant.
Étonnant pour le Brésil. Et donc après, un autre bus est arrivé. Et on a eu de la chance parce qu'on a vraiment eu un temps magnifique, ce qui nous a permis de bien pouvoir profiter. Et c'est passé assez rapidement, quoi. C'est assez chouette comme manière de voyager parce qu'on est vraiment avec les gens du coin qui reviennent de la capitale et qui rentrent chez eux. Puis on a quand même pas mal le temps d'être ensemble. Donc c'était assez sympa. Après, ce que j'ai trouvé bien par ce moyen d'atteindre donc, la micro-région d'Altamira où se construit le barrage, c'est que ça te permet de voir un peu l'étendue de la déforestation, tout ça. Parce qu'il faut savoir que la déforestation se fait principalement autour des routes, logique, là où c'est accessible.
Je suppose qu'il y a des grands camions qui chargent des...
Énormément, ouais, de bois, etc. Et donc, la transamazonienne, elle a à peu près déforesté de chaque côté sur 50 km, quoi.
Ah ouais.
Donc, quand t'es sur la route, tu vois pas beaucoup de forêt. Tu vois des immenses pâturages avec très peu de bêtes dedans, c'est-à-dire 3-4 vaches pour des hectares et des hectares de pâturages et des palmeraies, quoi.
D'accord, donc tu vois pas de marsupilami, quoi, il n'y a pas d'arbre.
Non, donc là, c'est vraiment pendant des heures et des heures, tu roules et tu te demandes quand c'est que tu vas enfin voir la forêt, quoi, et c'est assez impressionnant de voir ça de ses yeux, quoi. Donc moi, j'ai apprécié ça, et puis de voir, voilà, pendant 2 heures, tu roules, t'as rien, et puis pouf, t'es à un village, tu te dis, mais c'est fou, vous habitez là, les gars. Donc voilà, le bus. Ensuite, arrivé donc à Altamira, qui est la plus grande ville près du futur Belo Monte, où j'étais censée rester un mois. Mais finalement, impossible de trouver un logement dans mes prix, parce qu'à cause du barrage, il y a eu une inflation immobilière énorme. Ça me revenait à payer un loyer à Nice, quoi, donc c'était pas possible.
C'est qui habite là, en fait ?
Alors, au départ, c'est des paysans, des pêcheurs, et voilà, quoi.
Tu veux me dire qu'un gars qui est pêcheur en Amazonie, il arrive à se payer...
Ah bah non, parce que lui, il a sa maison, il n'y a pas de problème. Mais pour toi qui viens et qui veux louer quelque chose, ça va être hors de prix parce que la plupart des gens qui viennent là-bas, ça va être des ingénieurs ou des gens qui viennent travailler sur le projet, quoi.
Voilà, qui ont des grosses boîtes, qui payent tout ça.
Donc du coup, en plus, ils te voient arriver avec ta petite tête blanche, ils disent « toi, c'est bon ».
Tu vas payer.
C'est ça. Donc, impossible de trouver quelque chose. Pourtant, j'avais des contacts, tout ça, mais bon, voilà, ils ne répondaient pas, enfin... Ça a été pendant 3-4 jours, je me suis un peu demandé si mon terrain allait pas complètement partir en cacahuète. Mmh. Et finalement, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Ouais, il faut absolument que t'ailles à Vitória do Xingu, c'est une petite ville à côté qui est aussi impactée par le barrage, mais tu verras, là-bas tu trouveras, nanana. » Et j'y suis allée. De là, on m'a encore dit « Non, non, prends le bateau, va là-bas, tu vas voir, c'est encore mieux. » Je l'ai fait. Là, j'ai vu la forêt. Là, ça... Là, c'était chouette. Petit bateau donc sur le fleuve pendant, je sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure. Et donc là, je suis arrivée à Senador José Porfirio, donc une jolie petite plage au bord du fleuve Xingu, avec un gros manguier qui pousse à même la plage, et plein de petites maisons en bois colorées. Et c'est là donc que j'ai logé principalement pendant un mois où j'ai établi mon QG, quoi.
D'accord, bosser. Donc toi, tu y as été quand même pour, je sais pas, pour faire une thèse dessus, pour
écrire
un livre.
Ouais, c'était pour écrire mon mémoire de master.
Alors, ça ressemble à quoi, un village là-bas ? Est-ce que ça... On va en parler après, hein, un peu de l'imagerie de ces régions-là.
Ouais,
mais
ouais.
Moi, j'imagine un peu, je sais pas, des gars avec des plumes dans la tête, avec des peintures, tu vois, style un peu Avatar, quoi, tu vois. C'est
alors,
pas ça ?
Alors, pas vraiment.
C'est choquant, ce
que tu dis. Il y en a un peu, hein. Mais bon. Disons que, principalement, donc, c'est ce qu'on appelle des villes pionnières. Et là-bas, on appelle ça un peu le Far West. Pour te donner une idée, c'est un peu le Far West, mais mode amazonienne. Donc, c'est des petites villes de 10 000 habitants, à peu près, où c'est donc des maisons en bois, très, très, très rustiques, parfois peintes, parfois pas. Les routes, c'est de la piste, c'est pas goudronné. Et puis, c'est étendu, c'est-à-dire, enfin, il n'y a pas d'immeubles ou quoi, c'est vraiment que des maisons, 2-3 petits magasins, vraiment juste le nécessaire. Et puis, plein de pirogues et de pêcheurs de partout, quoi. Ça ressemble à ça. Donc, t'as les villes pionnières. Au-delà des villes pionnières, généralement, t'as les zones de ferme. Donc là-bas, il n'y a pas de grosse industrie agricole. C'est surtout des petites fermes familiales. Donc, t'as, voilà, sur quelques kilomètres des fermes. Et quand tu vas un peu plus loin encore, t'as la forêt. Et c'est là que tu vas trouver des villages qu'on dit ribérinos ou indiens. Donc, ribérinos, c'est des riverains. C'est juste qu'ils se revendiquent pas de culture indienne, mais ils ont le même mode de vie. Et donc là, tu vas peut-être réussir à trouver des plumes ou des trucs comme ça. Mais encore, c'est pas leur quotidien, quoi. Ça va être pour les occasions ou pour les caméras ou ce genre de choses.
Quand on parle justement de population primitive dans ces endroits-là, tu les retrouves, tu les retrouves pas, c'était loin de ton village.
Ah non, il y en a. Mais de toute façon, après, enfin, faut relativiser un peu, parce que si tu dis oui, je vais chercher des Indiens, parce que c'est ça que t'appelles primitif, je suppose.
Ben
C'est
oui,
bien,
c'est un peu. Enfin,
voilà.
tu vois, nous, c'est l'imagerie qu'on a en tant
Ouais, c'est ça.
que voyageurs plus ou moins normaux. Tu vois, on se dit on va arriver dans un endroit où on va vraiment arriver dans un village indien. On sait que la réalité, c'est pas comme dans les films, mais en vérité, quand on voyage, on a envie de voir ce qu'on trouve dans les films, justement. Et là, tu me parles d'une ville de 10 000 habitants. Voilà. Enfin, quelle est sa population, justement? Est-ce que c'est des Indiens? Est-ce que c'est plus des Indiens? Est-ce que les vrais Indiens sont plus loin? Enfin, comment c'est exactement?
De visu, je vais te dire, c'est un peu tous des Indiens, quoi. En tout cas, il s'en est. Après, être indien au Brésil, c'est surtout une question de légitimité, au niveau de l'État. Et en gros, donc, si tu te revendiques indien, traditionnel, un indio, tu te retrouves sous la tutelle d'un organisme, gouvernemental qui s'appelle la FUNAI. Donc voilà, t'es sous tutelle, quoi. Tu n'es pas un Brésilien, t'es un Indien. Donc tu gagnes des droits dans le sens où t'as le droit de revendiquer ta terre, de revendiquer certaines spécificités en fonction de ce statut. Mais à côté de ça, tu t'as pas les droits que va avoir un Brésilien. Et dès que par exemple, voilà, un jeune Indien, on va dire, qui quitte son village pour aller s'installer dans une petite ville pionnière comme celle dont je t'ai parlé, pour devenir pêcheur ou quoi que ce soit d'autre, ne va plus être considéré comme un Indien. Donc du coup, il va plus avoir le droit de revendiquer ses terres, il va perdre tous ses droits vis-à-vis de l'État pour en acquérir de nouveaux.
Et donc il y a vraiment une ségrégation alors entre enfin ce que tu veux nous dire en fait c'est que c'est une histoire de papier, que ça change pas du tout de toute façon l'origine de ces personnes-là quoi.
Finalement, voilà, c'est tous des Indiens, des Brésiliens, des ce que tu veux. Après, c'est juste en fonction de leurs besoins et de leur situation, ils se revendiquent indiens ou pas, quoi.
D'accord.
Mais c'est tous des.
Oui, de toute façon, leur origine est la même. C'est des gens qui sont là-bas, quoi. Et alors, voilà, les maisons, comment elles sont? Les gens, ils vivent de quoi, là? Tu nous as parlé de la pêche, un petit peu?
Ouais, beaucoup de pêche, parce que le fleuve est très riche pour le moment en tout cas, ça va peut-être pas durer. Mais pour l'instant, il est très riche, hein. Tu jettes ta ligne, 2 minutes après, t'as tout ce que tu veux. Le poisson est délicieux, donc il y a voilà, énormément de pêcheurs, donc des petits agriculteurs. Et on vit aussi de la coupe du bois. Faut pas oublier qu'on coupe énormément de bois en Amazonie, donc il y a beaucoup de gens qui survivent grâce à ça, légalement ou pas. Dans la ville où j'étais, il y avait un homme, une entreprise qui avait le droit légalement de couper du bois, mais j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont clairement dit qu'ils travaillaient pour la mafia et que voilà quoi. Donc en grosso modo, c'est ça, c'est bois, cultiver la terre et pêche.
Ouais, enfin c'est voilà, ça c'est un peu comme on se l'imagine à la rigueur, d'accord. C'est intéressant et au niveau infrastructure, ça ressemble à quoi? Enfin, est-ce qu'il y a des écoles, est-ce qu'il y a des hôpitaux, est-ce que ou c'est vraiment village quoi?
Alors, dans les petites villes pionnières, tu as le minimum, donc tu as les écoles, même si elles sont pas forcément toujours très fréquentées. Tu as un hôpital, en tout cas là où j'étais, il y avait un hôpital qui était somme toute correct. Tu as le minimum. Après, les infrastructures sont assez faibles, quoi, et c'est le problème des gens. L'entreprise qui va construire le Belo Monte, en contrepartie, dit qu'elle va fournir plus de moyens pour les structures locales. C'est ce qui fait en grande partie que les gens sont plutôt avenants au fait que le Belo Monte vienne sur leur territoire. Le problème après, c'est que les promesses ne sont pas toujours tenues dans ce genre de circonstances et que même quand elles sont tenues, en fait, elles prennent pas en considération que le barrage lui-même va engendrer de nouveaux problèmes sociaux et que même les améliorations qui sont fournies ne seront pas suffisantes par rapport aux problèmes qui vont être amenés dans la région, quoi.
D'accord, pour les infrastructures. J'ai vu un reportage qui disait qu'il y avait une ville qui était passée de 150 habitants à 100 000 habitants. C'est dans le coin où t'étais ou...
De 150 à 1500 habitants, ça me parle pas trop, hein. Là-bas, ouais.
Oui, enfin, je sais pas. Enfin, il y a pas vraiment de grande ville autour du barrage ou si ou parce que il y a quand même des milliers d'ouvriers qui viennent justement pour y travailler, non?
Dans la micro-région d'Altamira, tu as donc Altamira, qui au départ avait 100 000 habitants et qui devrait approcher les 150 000 maintenant, à cause de l'arrivée du barrage. Et après, tu as 10 autres petites municipalités comme celle où j'étais. Et sinon, tu n'as pas d'autres villes ou quoi dans le coin. Et donc, c'est Altamira qui est principalement touchée au niveau des premiers impacts. Parce que voilà, comme tu le dis, il y a énormément d'ouvriers qui viennent. Il y en a qui arrivent tous les jours par le bus comme celui que j'ai pris. Et qui viennent remplacer ceux qui ne supportent plus les conditions de travail qui sont assez déplorables. Et du coup, il y a une espèce de va-et-vient constant. Et plus le barrage avance, et plus il y a besoin de main-d'œuvre. Donc.
Ouais, parce qu'on parle, si j'ai bien lu, à peu près de 18 000 ouvriers chaque jour.
Ouais.
Enfin, qui travaillent chaque jour sur le chantier, hein, pas 18 000 nouveaux ouvriers.
En tout, je crois, ouais, il y a plusieurs dizaines de milliers qui vont venir petit à petit.
Alors voilà, tu as été dans cette ville-village de 10 000 habitants.
Ouais.
Ensuite, je suppose que tu as été voir vraiment où est le barrage, parce que dans cette région-là où tu étais, tu nous parles voilà, de gens qui vont pêcher et tout ça, on n'a pas l'impression que c'est encore très touché pour l'instant. Du coup, tu as dû aller là où c'est vraiment touché.
Alors, le barrage, je l'ai vu direct en arrivant parce que le bus passe par l'un des chantiers. Donc, c'est assez impressionnant. Ça fait un espèce de gros cratère énorme et encore, ça n'avait pas encore avancé. Je suppose que maintenant, ça a encore changé. Il y a plusieurs chantiers, donc j'ai pas pu tous y aller. Ils sont assez éloignés les uns des autres. Le futur réservoir va faire 500 km², donc tu vois, ça va. C'est un gros ouvrage. Mais je ne suis pas allée dans un des territoires où je désirais aller qui va être touché principalement parce que on va couper en fait le bras du fleuve qui les alimente pour détourner l'eau vers le réservoir principal, ce qui fait que le débit va diminuer de plus de 80%, donc plus de pêche, plus de transport, tout ça quoi. Mais j'ai pas pu m'y rendre. Faute de contact sur le moment qui pouvait m'y emmener, parce que tu te doutes bien que c'est pas le genre d'endroit où tu débarques tout seul avec ta moto ou ton camion, quoi.
Ouais, puis bon, je suppose, c'est des chantiers, donc c'est dangereux, c'est surveillé, enfin...
Bah surtout que comme il y a énormément de mobilisation contre le barrage, ils acceptent pas que tu débarques comme ça pour voir comment ça se passe, pour poser des questions...
Ouais, on les comprend.
C'est pas trop la politique, quoi. C'est plutôt mettre des militaires devant pour que personne avance, plutôt que t'accueillir les bras ouverts pour te demander, quoi. Donc je l'ai vu, mais j'ai pas pu encore aller vraiment au contact des ouvriers, etc. Mais je vais le faire lors de mon prochain voyage. C'est prévu.
Ok, bah on espère que tu y arriveras, hein. C'est certainement intéressant pour documenter, justement.
Ouais.
Alors, bon, voilà, on a dressé un peu le portrait global du truc, voilà. On comprend, voilà, ils construisent un grand barrage. C'est pourquoi, enfin, pour ceux qui savent pas. Hein,
Alors, c'est pourquoi? C'est pour alimenter les villes en énergie qui, dans le nord du Brésil, en ont besoin pour se développer davantage. Je sais qu'à Belém, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit que même Belém, qui paraît pourtant assez loin, attendait l'énergie du Belo Monte. Pareil à Manaus, qui est une autre grande ville amazonienne de l'autre côté. Mais principalement, ça va servir à alimenter des industries d'extraction de bauxite. Parce que le Pará est un gros fournisseur de bauxite qui a beaucoup de contrats avec la Chine, qui attend avec impatience son aluminium. Et aussi une grande mine d'or qui va être la plus grande du Brésil, qui, comme de par hasard, va être ouverte juste à côté du futur Belo Monte.
Ben, c'est pratique, hein, comme elle est bien faite la nature quand même.
Elle est bien faite la nature, elle nous donne tout ce qu'il faut.
Donc voilà, production d'énergie, donc bon, il y a le côté industrie pour la bauxite et l'aluminium, voilà, l'aspect énergie aussi pour les populations alentours.
Mm-hmm.
Maintenant, tu vas me dire un peu pourquoi, voilà, ben, pourquoi c'est pas bien de faire un barrage là finalement, parce que si tu apportes de l'électricité aux gens, ils ont besoin d'internet, des ordinateurs comme nous, tu vois, donc...
Tout à fait. Alors le problème, c'est que cette énergie, elle n'est pas spécialement prévue pour les gens localement. Enfin, c'est pas localement qu'on va le plus profiter de tout ça. On en paye plus le prix sur place qu'on en tire les bénéfices. D'ailleurs, depuis la construction du Belo Monte, il y a énormément de problèmes d'énergie là-bas.
Oh, forcément, ça, c'est le chantier qui prend l'énergie.
Voilà, t'as des coupures constantes. Donc là-bas, on dit que l'énergie part une fois, elle revient, elle repart une deuxième fois, et la troisième fois, elle revient pas. Donc la troisième fois, t'as tout le monde qui sort les bougies et on sait que c'est parti pour quelques heures, un jour ou plus. Mais c'est pas pour eux qu'est prévue l'énergie. Du coup, sur place, si tu demandes aux gens ce qu'ils veulent, ils vont dire « Ouais, nous, on aimerait bien avoir plus d'opportunités économiques, que notre région se développe un peu, tout ça. » Le problème, c'est pas le développement, c'est la manière dont il est effectué, quoi. Parce qu'eux, ils sont pas du tout contre ces choses-là. Le problème, c'est que c'est un projet invasif, parce que on n'a pas demandé la concertation aux habitants. Quand les habitants disent ce qu'ils pensent, on les écoute pas. Eux, on leur demande de sacrifier leur mode de vie, de sacrifier leur territoire, de sacrifier un peu leur existence, quoi, pour un projet où, au final, ils ont pas grand-chose à tirer, quoi. C'est extérieurement, oui, les grandes villes comme Belém, Manaus, où les industries vont pouvoir se développer grâce à ça. Mais en soi, les pêcheurs du Xingu, ils en payent le prix, mais c'est tout, quoi. Eux, tout ce qu'ils voient, c'est que ben il y aura moins de poissons dans le fleuve, la qualité de l'eau va être dégradée, il va y avoir plus de cas de dengue et de malaria parce qu'il y aura plus de moustiques avec les eaux mortes du réservoir. Il y a plus de gens, donc les institutions sociales ne répondent plus aux exigences. Il y a donc eux, ils voient tout ça, quoi, et ça leur fait peur, ce qui est compréhensible. Sans parler des Indiens à qui on dit carrément bon ben maintenant vous abandonnez vos villages et vous allez vous parquer dans des préfabriqués qu'on a mis en périphérie d'Altamira, et puis vous allez tous vous agglutiner là-dedans, et puis...
Alors, j'ai plusieurs questions sur ça, justement. J'avertis tout de suite, je vais avoir des questions relativement intelligentes, j'espère, qui sont les questions qu'on se pose tous sur ce genre de projet. Des questions qui auront aussi un petit peu, et j'ai averti les auditeurs, parfois un petit peu de mauvaise foi, mais je pense que c'est normal aussi de répondre à ces questions-là, parce que c'est des questions qu'on a tous, finalement, je pense. Et voilà, c'est intéressant d'y répondre, et toi, comme tu connais bien le sujet, on va en profiter. Notamment, une question, tu nous parles de combien de personnes qui vont se faire déplacer? Si c'est 1 million de personnes, c'est combien c'est?
Alors, c'est des estimations, hein, parce que entre t'as les promoteurs qui vont diminuer les chiffres et t'as les militants qui vont les augmenter.
C'est un peu comme le nombre de personnes dans une manif, en fait.
Voilà, c'est exactement. C'est entre 20 000 et 50 000 personnes.
Et ben je sais pas si tu l'as regardé, mais quelle est la population de Pará, l'État brésilien justement qui est concerné par tout ça?
Dans le Pará, je sais pas.
Alors moi je peux dire, c'est 7,793 millions de personnes en 2012. Je suppose que c'est un peu plus, ça doit toucher les 8 millions. Alors moi la question naturelle que je me pose en Suisse capitaliste mathématique, je me dis ben même 50 000 personnes en prenant la marge la plus haute que tu as donnée avant, 50 000 personnes déménagées. C'est pas grand chose par rapport à 8 millions de personnes. Alors, on se doute bien que ces 8 millions vont pas profiter tout de l'électricité, hein. Ça va être une fraction importante, mais ça prend pas la totalité de l'électricité, hein. Donc, je me dis, 50 000 personnes, enfin, c'est l'intérêt du nombre qui l'emporte sur l'intérêt de la personne, tu vois. On va pas, enfin, ça me semble un peu normal, tu vois. Je me dis, c'est logique de faire ça, quoi.
De sacrifier quelques-uns pour le bien-être de tous.
Même si c'est un peu moche, on est d'accord, hein, mais... non, mais enfin, tu vois, je veux dire, enfin, se sacrifier, c'est normal, quoi.
Oui. Enfin, ça dépend.
J'ai dit que j'allais être de mauvaise foi. Hein.
C'est vrai. Mais le problème, c'est même pas ça. C'est que en fait, si tu vois vraiment les personnes à qui ça va apporter quelque chose, c'est beaucoup moins. Parce que ça va être quelques industriels principalement, etc. Enfin, la population, enfin, il y a pas tant de gens que ça à qui ça va profiter, quoi. Après, sur le long terme, ça profitera certainement à la région. Si la région fait comme ça a été fait vers Foz do Iguaçu, qu'elle en fait un patrimoine touristique, qu'elle arrive à, avec le temps, ça pourra faire des choses, quoi. Mais est-ce que on est censé imposer à un territoire la manière dont il va, ce qu'il va devenir, ou est-ce que c'est à la population locale de diriger le chemin qu'elle va suivre?
Ben moi, je te dirais que dans un pays, fondamentalement, c'est le gouvernement d'un pays qui dirige un pays. Hein. Fort heureusement, c'est pas les communautés locales qui le dirigent. Hein. Tu t'imagines, c'est typiquement je prends peut-être un peu l'extrême, hein, mais c'est l'anarchie justement là où finalement chaque petite communauté décide de l'évolution de sa propre communauté restrictive. Et puis, voilà, finalement, c'est revenir à un mode d'État qui n'est pas, en l'occurrence, le mode d'État de l'État brésilien, où c'est un gouvernement qui décide et qui est censé, justement, théoriquement, favoriser l'intérêt de la majorité. Et en l'occurrence, 50 000 personnes, même si c'est beaucoup de personnes, ce n'est pas la majorité, tu vois.
C'est vrai.
Comment est-ce qu'on contre ça, finalement? Parce que c'est mathématique, on va dire. Pourquoi est-ce que ces 50 000 Indiens auraient le droit de décider ce qu'ils veulent faire ou pas, tu vois? Pourquoi 50 000 Indiens, ils ont le droit de dire « Oh non, nous, on veut pas de ça ici. »
Bah, en fait, c'est dans la loi, déjà. Un grand projet de développement de cette ampleur est censé être fait en concertation avec la population locale. Déjà, ça a pas été... c'est un des points principaux qui est utilisé par la mobilisation pour dire « Ouais, mais attendez, on a quand même notre mot à dire. » Parce que le gouvernement ait une idée, un projet pour développer son pays, bien sûr, c'est son rôle. Mais les gens qui vivent localement connaissent mieux que personne le territoire. Ils ont aussi leur mot à dire pour co-construire ça. Le gouvernement n'a pas... Enfin, d'après moi, ne doit pas construire seul ce qui se passe sur son pays. C'est avec son peuple que ça doit être fait. Donc si tu proposes un projet et que tous les gens qui sont sur place sont réticents, à toi de le retravailler et de dire « Bon, ben, on veut développer cette région, comment on peut faire avec le potentiel de cette région ?» Parce que si tu demandes aux gens sur place, ils vont te dire « Oui, mais on peut faire de l'extractivisme, on a énormément de richesses, on pourrait faire du tourisme, on pourrait faire des choses qui, sans détruire, pourraient permettre d'en construire. » Alors que là, c'est vraiment passer par une destruction massive pour espérer construire quelque chose derrière qui n'est pas forcément désiré par le peuple, quoi. Après...
Il y a le pour et le contre, hein. De toute façon, voilà, voilà. C'est juste pour exposer les choses des deux manières. Ok, alors avec ça, admettons, je suis d'accord. Je me dis, bon, l'énergie, oui, parce qu'on va y aller un par un. J'espère que tu vas me convaincre. L'électricité, c'est quelque chose, enfin, à mon avis, hein, on peut pas être d'accord ou pas, mais c'est un vecteur du culture, c'est un vecteur d'industrie qui a ses pour et ses contre, mais c'est un créateur de richesse dans un monde où, malheureusement, c'est capitaliste, quoi, je veux dire.
Ouais.
On peut bien se dire, je vis au milieu de la forêt sans argent, c'est possible, mais on est dans un monde qui fonctionne pas comme ça, c'est dommage, mais voilà, c'est un peu fataliste, mais c'est comme ça. Je me dis, si tu veux faire autant d'énergie, bon bah qu'est-ce que t'as comme autre choix ? Tu fais du nucléaire, voilà, on sait un peu les problèmes que ça mène, en plus dans une région comme ça, on s'imagine les conséquences si ça pète. Tu te dis, on peut faire avec les énergies fossiles, hein, faire des centrales à charbon, des trucs comme ça. Bon, on sait que c'est pas terrible non plus, hein, là ce serait vraiment amener la pollution directement aux poumons de la planète. Tu dis, tu peux mettre du solaire, bon d'accord, alors, mais raser tous les arbres pour y mettre du solaire, ou, voilà, enfin, je veux dire, c'est une solution qui me paraît tout aussi idiote, hein. Donc, je me dis, finalement, si tu veux l'électricité, ben voilà, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, quoi. Il y a un moment, il faut couper des arbres et foutre une centrale, quoi. Après tout, quelle qu'elle soit.
Oui, mais plus petite, c'est déjà moins problématique.
Mais plus petite, t'as aussi moins d'énergie.
Oui, mais plusieurs petites centrales feront moins de mal qu'une seule grosse centrale. Là, tu détruis tout un écosystème, en fait. Tu détruis 500 km² de forêt, tu les noies sous 80 mètres d'eau, tu changes...
En plus, en réalité, si tu comptes les endroits qui vont être asséchés...
C'est ça, il y a 100 km de... c'est toute la région, enfin, vraiment, toute la région va être modifiée au niveau de la faune, de la flore, de son équilibre environnemental, quoi. Alors que si tu coupes un plus petit fleuve, t'auras... Ça a moins d'impact. Le problème, c'est les impacts. C'est c'est de détruire. Qu'est-ce qu'on est prêt à détruire pour construire quelque chose, quoi. Alors, c'est sûr que tu vas me dire, le nucléaire, c'est pas mieux tout ça. Donc, mais des plus petites centrales hydrauliques, c'est déjà beaucoup mieux. Et c'est ce qu'ils font. Hein. Le Brésil ne fait pas que des grands barrages. Il fait aussi énormément de petits barrages. Pareil, quand un barrage est plus petit, il est plus facilement négociable avec la population et les populations ont plus un droit de regard sur ces différentes composantes. Et souvent, ça se passe mieux.
Parce qu'à la rigueur, tu te dis, ça fait un petit lac, voilà. Enfin, lac de plus, quoi. Est-ce que c'est vraiment important ? Parce que là, justement, j'aimerais revenir sur le point-là. 500 km² de d'eau, tu te dis... Enfin, moi, au premier, tu vois, je me suis dit, bon, ça fait 500 km² de flotte où il va y avoir des poissons, des machins dedans
non,
et
non,
tout.
Non.
Enfin, de toute façon, je veux dire, les gars, ils iront quand même pêcher dedans, quoi.
Non.
Mais en fait, pas vraiment, quoi.
Ah non, parce que l'eau, du coup, le cours du fleuve est coupé, donc l'eau devient plus ou moins morte, quoi. C'est plus des eaux vives, donc les poissons d'eau vive ne peuvent pas, n'y survivent pas, quoi.
Puis il y a l'aspect aussi, même au-delà des eaux vives, hein, parce que j'ai quand même documenté un minimum sur le truc, l'eau va par moments beaucoup trop vite. Et par exemple, pour la ponte des poissons ou des choses comme ça, bah, en fait, ça les tue, en fait. Parce que c'est pas possible d'avoir un processus naturel qui suive ça. Ce qu'il faut savoir aussi, et ce qu'on a de la peine à penser, nous, par exemple, les barrages, c'est sur le rythme des saisons avec la neige, tu vois.
Ouais.
L'hiver, il neige, le barrage se désemplit, et puis l'été, la neige fond, les glaciers fondent, qui remplissent les barrages.
Mm-mm.
C'est finalement une rétention d'eau, mais qui est assez naturelle, quoi.
Qui est bien
Voilà, il y a sûrement eu des conséquences écologiques, simplement ça s'est passé avant, on n'a pas fait le calcul.
Mm-mm.
Là, on est quand même dans des situations, des pays qui sont liés à la mousson notamment, et donc c'est ou inondé ou desséché en fait.
Ouais, et c'est problématique même par rapport au barrage lui-même, parce que dans les calculs où ils disent qu'il va produire tant d'électricité, finalement ça prend pas en compte le fait que pendant la saison de sèche, il y a beaucoup moins de débit, et finalement le Belo Monte pourra être à sa capacité maximum, peut-être 3 ou 4 mois dans l'année, pas plus quoi.
C'est là aussi que c'est super intéressant, je trouve, et c'est là où l'argumentaire, je trouve, devrait plus se focaliser, même s'il est un peu plus complexe à expliquer peut-être. C'est justement quand on parle d'un barrage comme ça, moi je trouve, dans le sens simple, si c'est un barrage pour faire l'électricité, moi je trouve ça bien. Maintenant, quand on dit, bon, c'est un barrage, mais il va falloir en faire deux autres un peu plus haut dans la forêt, justement faire des rétentions d'eau pour prévoir les saisons sèches, alors là, ça pose déjà beaucoup plus de problèmes. Quand on sait que les industries de la bauxite, notamment, sont des industries qui sont très, très polluantes et qui sont extrêmement demandeurs en énergie, on dit toujours que l'aluminium, c'est un truc écologique. Et c'est vrai que c'est écolo, du moment que c'est l'aluminium recyclé. Et souvent, on dit l'aluminium, c'est quelque chose de bio ou écolo, parce qu'on intègre le recyclage dedans. Mais la fabrication pour la région qui fabrique, c'est absolument pas écolo.
Non.
Ça demande une énergie folle. Il faut 3 tonnes de bauxite pour faire 1 tonne d'aluminium. Enfin bref, c'est assez terrible dans la région. Donc en fait, moi là où je vois, tu me diras si j'ai raison ou pas, mais
ouais.
Il me semble que c'est une sorte de cheval de Troie en fait.
C'est
et
ça.
C'est ça qu'on a tendance à oublier, dans le sens où, à mon avis, s'il y avait que ça, franchement, je me dirais, bon, allez les gars, arrêtez, c'est bon, laissez-leur faire leur barrage. Mais le problème, c'est que ça va considérablement...
C'est tout ce qui est autour.
Voilà, exactement. Et c'est là où c'est intéressant, je vous encourage, je mettrai aussi en lien dans le podcast un article que Franck Michel a écrit part sur cette région-là. Il est anthropologue du voyage, on a eu le privilège de l'avoir en cours, nous deux, qui parlait d'une région, alors je me rappelle plus où c'est, mais aussi typiquement où il expliquait l'influence que ça a de mettre simplement une route pour favoriser le passage.
En Patagonie, non ?
Ouais, c'est possible. Oui, exactement.
Il Patagonie, en revient, voilà. Là.
Et voilà, il en revient. Et je vous mettrai ce billet parce qu'il est fascinant.
Ouais.
Parce qu'une route, c'est complètement idiot. Hein, c'est un bout de goudron. Et en réalité, ça modifie complètement la dynamique d'une région. Et ça la modifie potentiellement vers le mal. Hein. Je pense que les deux potentiels sont examinables, mais vraiment plutôt pour le mal. Donc là, en fait, on est en train de transformer globalement une région où il y a voilà, des Indiens, l'Amazonie et tout ça, en une région qui va devenir 100% industrielle d'ici quelques années.
C'est ça.
Et là, c'est nettement plus grave quand même.
Ouais, bah oui, parce que l'Amazonie a énormément de potentiel pour pouvoir évoluer autrement en utilisant ses richesses à bon escient, quoi. C'est pas que de l'énergie et des métaux, c'est aussi énormément de denrées qu'on ne trouve que là et de beauté qui pourrait permettre aux gens de s'ouvrir vers l'extérieur sans mettre en péril leur environnement, quoi.
J'ai une question pour toi aussi par rapport à ça. Et je me souviens plus si c'est le président brésilien, donc je sais pas dire de bêtises,
ouais.
Mais un gars qui a énormément aussi de ressources forestières, hein. Je crois que c'est l'Amazonie, mais j'ai pas raconté de bêtises, qui a demandé à tous les pays du monde, en fait, de payer pour ça. Parce que le problème, c'est la valeur des terrains, en fait. Dans le sens où un terrain qui a que de la forêt n'a de la valeur que le bois qu'il y a dessus. S'il y a du bois et qu'en dessous il y a de la bauxite, de l'or ou n'importe quoi, le terrain augmente en valeur. C'est des pays qui ont besoin de générer de la richesse, hein, le Brésil comme tous. Et du coup, leur choix, c'est ou ils gardent un truc qui ne rapporte rien du tout, ou alors ils le vendent pour rapporter de l'argent dont ils ont besoin, notamment pour des trucs tout à fait nobles que sont l'éducation, la santé, etc. Et donc, ce qu'il avait demandé, il avait demandé aux pays du monde de dire bon, ben, si vous voulez pas que je creuse, ben, donnez-moi au minimum ce que je gagnerais en creusant. ce qui me semblait, moi, être un truc assez logique, quoi, tu vois, parce que le gars a besoin de générer du revenu. Bien sûr, tout le monde a fait semblant de pas comprendre. Je sais pas si c'était à propos du Brésil, mais par exemple, voilà, c'est juste pour dire, il y a des pistes qui pourraient être envisagées, alors pas forcément celles-ci, mais qui sont pas prises parce que, ben voilà.
Après, au Brésil, il n'y a pas que des mauvaises politiques au niveau de l'environnement et de l'Amazonie. Et à cet endroit-là, c'est problématique. Mais tu as aussi d'autres endroits où on crée des réserves formidables d'extractivisme, où justement on extrait les richesses naturelles sans déséquilibrer localement les. Je sais pas, je trouve plus mon mot.
L'écosystème ?
Ouais, sans déséquilibrer l'écosystème. Et voilà quoi, faut pas non plus avoir une vision que pessimiste, le poumon de la Terre est en train de mourir. Bon, certes, il est pas en très bon état, mais voilà, il y a aussi des belles choses qui sont faites. Les réserves brésiliennes sont énormes, hein. Il y a des communautés indiennes qui ont des territoires qui font 3 fois la Belgique, quoi. Enfin, c'est, comme tu dis, il a besoin de faire de l'argent, et quand il voit un projet comme le Belo Monte, il s'y accroche, quoi. Ça fait 30 ans qu'il veut le faire, et il le fera, et il lâchera pas.
On va y aller peut-être plus sur le futur maintenant.
Ouais.
Moi, je me dis, bon, ce projet que tu as dit, il est fini en 2017 ?
Oui, normalement.
Voilà,
il y aura certainement du retard, mais...
Ouais, comme tous les grands chantiers, mais on va dire, aller combattre ça, j'ai l'impression que c'est un peu comme Don Quichotte, tu vois. Tu vas combattre un truc qui, de toute façon, va se faire. Voilà, est-ce que ça a un sens de se battre pour ça ? Et la question, je me pose, parce que je vois plein de gens qui sont énervés, qui mettent des signatures, machin et tout, pour un truc qui va de toute façon se faire, je trouve que c'est vraiment pédaler dans le vent. Parce que de toute façon, ces populations vont effectivement être déplacées, hein, elles n'auront pas le choix. Est-ce qu'on fait quelque chose pour les aider, eux ? Parce que finalement, c'est ça qui est important, tu vois. De toute façon, on ne va pas arrêter le truc, mais il faut les aider, eux. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là ?
Alors, c'est sûr que, bon, arrêter définitivement le projet, on peut pas dire que ça se fera pas parce que c'est déjà arrivé dans l'histoire, mais c'est très rare. C'est très très rare. Après, la mobilisation a déjà réussi à l'arrêter sur de petites périodes, à avoir la justice de son côté. Mais foncièrement, voilà, arrêter le barrage, même les militants, je pense, ont conscience que ça ne se fera pas. J'avais rencontré quelqu'un sur place qui m'avait dit ça. Mais néanmoins, ça ne veut pas dire que ça ne leur permet pas de négocier certaines choses avec les promoteurs du barrage et de gagner sur des petite chose. Et en même temps, la médiatisation et la mobilisation internationale, comme tu as dit, les pétitions, ce genre de choses, permet à eux de faire valoir le fait qu'ils sont suivis. Et que c'est pas juste des Indiens contre le plus grand promoteur énergétique du Brésil et je crois même de l'Amérique latine. C'est des Indiens soutenus par des ONG internationales, par des gens du monde entier. Et du coup, ça force les promoteurs à prendre un peu en considération ce qu'ils disent.
Ça fait peut-être bouclier humain s'ils voudraient faire une répression un peu plus sordide, peut-être.
C'est ça. Ils savent que c'est suivi, ils savent qu'il y a les médias derrière et que dès qu'il y a un peu de violence, quelque chose ou quoi, c'est tout de suite relégué. Et donc, comme je te disais, ça permet de négocier des choses. Par exemple, tu vas avoir une des communautés va se voir privée du cours du fleuve, qui va obtenir un système pour les embarcations. Donc, un petit truc à côté du barrage pour que les bateaux puissent continuer à circuler. Bon, bah, ça, voilà, c'est négocié. Alors, il y en a encore qui vont te dire que c'est pas suffisant, etc. Mais voilà, il y a des choses qui sont faites. Les gens peuvent dire, attendez, là, vous nous avez promis une école, elle n'est pas construite. Là, il y a ci, là, il y a ça. Et le fait d'avoir du soutien, c'est important pour ça, quoi.
Ouais, donc, il y a un réel sens, quand même, à se battre pour ça. Ouais,
il y a un sens.
Ce que je vois dans les vidéos de propagande, on va en parler, il faut arrêter. Moi, je veux dire, les gars, il faut arrêter, quoi. Le machin va se faire. Pourquoi vous vous battez, quoi? Et là, maintenant, de ton explication, je comprends qu'il y a effectivement un sens à se battre.
Oui, il y en a un. Parce que, et puis en plus, faut pas oublier que sur place, il y a énormément de communautés différentes qui ont chacune leur propre intérêt, leurs propres enjeux, qui sont même parfois pas très copines les unes avec les autres, tout ça. Et du coup, chacun essaye de défendre un peu son territoire, un peu sa cause, et de se sauver et d'assurer sa pérennité comme il peut à travers la mobilisation, quoi. Tu vas avoir différentes tribus. Après, quand tu regardes, toi, les vidéos, tu le vois pas, mais moi, je sais que je repère, à lui, il vient de tel endroit, il revendique pour ça, etc., quoi. Après, du coup, forcément, pour que la mobilisation ait du poids, elle est unifiée derrière un gros mouvement. D'ailleurs, le mouvement local qui s'appelle Movimento Xingu Vivo Para Sempre, donc le mouvement pour le Xingu, donc le fleuve vivant pour toujours, il réunit tous les syndicats et les associations locales. Donc voilà, où chacun peut espérer s'exprimer, quoi.
Oui, mais c'est intéressant, du coup, d'expliquer le combat d'une façon, je trouve, plus réaliste et qui s'intègre mieux. Une autre question que je m'étais posée, c'est la forêt, je l'ai dit avant, elle est hyper grande, hein.
Ouais.
Ça paraît très grand, ce chantier-là, quand on le voit, mais j'ai vu que ça a concerné une région qui fait 0,01% de la forêt amazonienne. Donc finalement, ça paraît ridicule comme ça. Hein. Ça fait beaucoup de kilomètres, mais c'est très grand, la forêt. Je me dis, ces tribus-là, franchement, elles peuvent pas se déplacer de 1000 kilomètres dans un endroit. C'est une question légitime, tu vois. Je me dis, il y a sûrement des endroits où ils sont tranquilles, où ils peuvent avoir des terres, où j'en sais rien, tu vois.
Au Brésil, donc le problème, ça va être que selon l'endroit où ils vont, va déjà y avoir d'autres communautés.
Il y a beaucoup
entraîner...
de monde dans la forêt, en fait.
Il y a du monde dans la forêt, mine de rien.
C'est pas une forêt déserte.
Non. Après, c'est quand même grand, hein, c'est espacé, tout ça, mais forcément, les communautés, elles vont s'installer où? Elles vont s'installer au bord des fleuves ou au bord des routes. Donc voilà. Ça diminue déjà largement les endroits où on s'installe. Et puis, pour les communautés indiennes qui sont légitimes aux yeux de l'État, qui ont un territoire reconnu, forcément, elles vont pas accepter que d'autres personnes viennent s'y installer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des territoires qui sont très grands. Donc, par exemple, si tu veux aller t'installer sur le territoire des Kayapo, dont le chef Raoni, qui voyage un peu dans le monde pour cette cause-là et pour ses indiens en général, je pense pas qu'il accepte que des communautés Arara ou n'importe quoi viennent sur les territoires qu'ils ont mis des années à obtenir, quoi. Légalement, ouais. En tout cas. Donc, il y a déjà ce problème-là. Ensuite, se déplacer, oui, non, quoi. Oui, il pourrait, hein. On peut toujours. Après, c'est vrai qu'au Brésil, il y a cette possibilité de s'installer un peu partout. On appelle ça le phénomène d'invasion. C'est qu'en fait, un peu partout, quand il y a des gens qui décident de s'installer quelque part, ils coupent des arbres, ils s'installent, et puis il y a une loi qui fait qu'au bout de quelques temps, sur un territoire, si tu n'as pas été chassé, tu peux le revendiquer comme chez toi, quoi.
Ok, je vais prendre ma hache et j'y vais.
C'est un peu ça. Mais c'est, ça se fait vraiment comme ça. C'est assez impressionnant. Même la petite ville où j'étais à Senador, aux abords de la ville, voilà, il y a une quinzaine d'habitants qui ont décidé que leur maison était trop petite. Donc ils ont coupé des arbres et puis ils étaient en train de construire leur maison, quoi.
Mais bon, de toute façon, c'est des petites communautés, de toute façon. Donc je pense que c'est pas...
Bah, comme la justice, c'est pas grave. C'est un territoire... Enfin, c'est une terre qui appartient à quelqu'un.
Hein. Ah oui, quand même, ouais.
Oui, c'est vraiment au bord, aux abords de la ville. Tu vois pas la séparation, quoi. C'est juste, il y avait quelques arbres. Maintenant, il y a des gens qui construisent leur maison. Et dans quelques temps, ça sera officiellement chez eux.
Donc en fait, c'est comme si t'avais un mec qui venait avec sa tente dans ton jardin et au bout de 2 ans, il a le droit d'y rester, quoi.
C'est exactement ça.
Mais du coup, t'as le droit de les chasser. Enfin, comment ça se passe? Parce que je suppose qu'il y a des gens qui sont pas très d'accord avec ça, quoi.
Bah si il y a des violences, des heurts, la police intervient. Mais tant qu'il y a pas de violence, la police n'intervient pas. Et ouais, la justice est tellement lente.
Quand tu lui mets le feu à la maison, t'as le droit, quoi. S'il est pas dedans.
Je sais pas, mais comme la justice est lente, de toute manière, même ça, ça sera peut-être pas suffisant pour que t'arrives à revendiquer ton chez-toi, quoi. En gros, si moi, là, je m'étais pris une petite maison à Senador, je reviens là cette année, je suis sûre qu'il y a des gens qui vivent dedans, quoi. Donc, il y a ça aussi qui fait que oui, en effet, les gens peuvent s'installer un peu partout, mais faut-il encore qu'ils aient de quoi survivre à l'endroit où ils s'installent, quoi.
Ouais, puis bon, enfin, je suppose voyager, se trouver un endroit, et puis comme tu dis, les meilleurs coins sont déjà pris, forcément, hein, c'est logique. Vas-y, c'est aussi un truc intéressant, je trouve, justement, maintenant, j'avais parlé un peu de l'imagerie de tout ça, parce que c'est des trucs qui m'ont fait marrer et énerver en même temps, des deux côtés. Et je trouve que c'est important d'en parler aussi sur VoyageCast, parce que quand on voyage, on voit souvent une grosse différence, quand même, entre l'imagerie d'un endroit et la réalité. C'est normal, hein, on vend du rêve, ce qui est tout à fait normal. La propagande existe, quel que soit le côté, hein. Je travaille dans le solaire, la propagande m'énerve du côté du solaire, tout comme la propagande pour le nucléaire m'énerve aussi. Mais voilà, chacun se bat avec les armes qu'il a. On vit dans un monde comme ça, ma foi, il ne faut pas y chercher une justice quelconque. Mais par exemple, ce que tu dis sur les Indiens, nous, les Indiens, globalement, je vais jouer avec Avatar, tout simplement parce que James Cameron, hein, il soutient aussi justement ça, hein, donc
cette cause.
Et c'est lui qui a fait Avatar, hein, donc voilà, c'est pour ça que le parallèle est vite fait.
Ouais.
Ce serait vraiment trop long d'en parler sur VoyageCast, mais il faudra vraiment que j'en parle et on va en parler prochainement. Mais ce truc du bon Indien, on avait parlé à la villa du Grand Bivouac.
Ouais.
Ce côté, pour nous, un Indien est foncièrement gentil parce qu'il a des plumes, il est tout nu dans la forêt, il est en contact avec les arbres, il adore le soleil et tout ça. Ce que je vais pas dire que c'est faux, hein, mais c'est quand même une imagerie très idéalisée. Et en l'occurrence, par exemple, dans ces régions-là, les Indiens, enfin les communautés différentes, je sais pas si c'est des tribus, des communautés, ou tu pourras le définir certainement plus précisément que moi, mais se sont fait la guerre jusqu'à il y a pas longtemps, hein, et se font peut-être encore la guerre, j'en sais rien. Enfin, comment c'est en vrai? Comment est-ce qu'on doit les voir, nous, en vrai, quoi? Question très complexe qui prendrait
très
des heures.
Complexe.
Hein, mais...
Ouais. Les Indiens, bon, c'est très diversifié. Chaque communauté est différente, a un niveau de contact avec l'extérieur différent aussi. Tu vas avoir des communautés indiennes où tu vas avoir l'impression d'être dans une ville quelconque, où tu vas vraiment pas voir ce que, voilà, cet imaginaire. Mmh. Qui fait travailler les Occidentaux, et d'autres qui vont peut-être plus correspondre à tout ça, mais finalement, c'est une question de contexte et de légitimation. C'est-à-dire que l'Indien qui va porter ses plumes, qui va mettre sa culture en valeur, etc., ça va être un moyen de se légitimer en tant qu'Indien traditionnel, comme on le disait tout à l'heure, pour être reconnu, pour reconnaître son territoire, etc. Et plus il va avoir de choses à revendiquer, et plus la culture va être mise en avant. Parce que c'est ce qu'on cherche, et que forcément, un gars qui a des belles peintures sur le visage, une tenue exotique et des plumes dans les cheveux, on va se dire « waouh !» et on va avoir plus envie de l'aider que le mec qui a un t-shirt troué et des tongs aux pieds. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et donc du coup, voilà, faut vraiment se dire que la culture est là, mais c'est un outil, et elle est ravigorée, vivifiée, quand elle se sent en danger, quoi. Donc il y a de ça. Mais en gros, ouais, c'est des gens qui vivent certes en contact de la nature, certes qui sont attachés à leur territoire, comme quelqu'un peut être attaché à l'endroit où il vit depuis l'enfance, mais c'est des gens comme tout le monde, qui peuvent être tout aussi irrespectueux de la nature que quelqu'un d'autre.
Je vois par exemple un cas de ça au Brésil. Il y a eu, je ne sais plus quel village indien, quelle communauté, qui avait chassé des bûcherons de son territoire et qui avait réussi à revendiquer son territoire pour qu'il n'y ait plus de bûcherons et qui par la suite a vendu ses parcelles à d'autres bûcherons pour pouvoir se faire de l'argent. Ou des Indiens qui vont dire « Nous, on ne veut pas que vous exploitiez des mines sur notre territoire, on veut les exploiter nous-mêmes. » C'est des êtres humains qui font avec les nécessités, ils font comme tout le monde, quoi.
Et qui veulent les choses à leur avantage, ce qui est tout à fait légitime.
C'est ça, c'est juste ça, quoi. Après, c'est sûr qu'ils sont plus connectés à la nature que nous. Forcément, quand tu vis entouré de la forêt amazonienne, tu es forcément plus connecté que quelqu'un qui va vivre à Washington ou je sais pas où, tu vois. Mais n'empêche que faut s'enlever le cliché du mec qui porte ses plumes. La plupart du temps, il porte son short et oui, il a une pirogue, mais il y a un moteur dessus. Et oui, il va pêcher et se nourrir des ressources de la forêt, mais ça ne va pas l'empêcher une fois de temps en temps d'allumer le groupe électrogène et de regarder la novella comme tout un chacun au Brésil, quoi.
Ouais, ce que je trouve normal. Hein.
Faut pas les figer dans le temps, en fait. Faut pas croire que les Indiens...
Mais c'est notre envie, des fois.
C'est
notre envie, des fois. Justement, parce que quand on va là-bas, comme je l'ai dit, on a envie de voir les Indiens comme à la télé. Et on aurait presque envie de mettre une cloche de verre et de leur dire, voilà, restez comme ça on peut venir vous voir, comme ça. Et c'est vrai que souvent, c'est ce qui est choquant en tant que voyageur, en fait, c'est quand on arrive et qu'on est frappé à la réalité. Hein.
Finalement, les Indiens qui vont répondre à ces attentes de voyageurs, etc., seront moins naturels que ceux qui ne les portent pas.
Ouais.
Moins authentiques, finalement, que ceux qui nous semblent authentiques, quoi.
Ben voilà, c'est intéressant le côté indien. Puis ensuite, voilà, ce que je trouve aussi qui est difficile, et tu vas nous dire un peu comme... Enfin, je sais pas où est-ce qu'on trouve les avis qui sont équilibrés, parce que j'ai regardé, par exemple, il y a Vincent Cassel qui a fait une vidéo, enfin, où il parle sur la vidéo, justement, qui dure à peu près une minute trente. Mm-hmm. Et ce que je trouve choquant dans ces vidéos, en fait, même si elles soutiennent, à mon avis, quelque chose qui doit être soutenu, justement, on l'a dit, ces populations locales, améliorer la vie, effectivement, on peut pas arrêter le barrage, mais on peut quand même améliorer la vie des gens sur place, ou faire que ça se passe le plus calmement possible. Donc, je trouve que le contenu en lui-même est intéressant et tout à fait valable. Mais l'imagerie, par exemple, je sais pas si t'as vu la vidéo, mais à un moment, on voit des vaches se faire tronçonner. Et... Alors bon, je comprends pas vraiment le truc. A priori, ils veulent pas faire des élevages de vaches en plein milieu de l'Amazonie. Je sais pas vraiment si les Indiens sont fans de hamburgers. Enfin, cette image-là, typiquement, elle est mise juste pour nous faire un parallèle entre toutes ces sociétés, ces grandes sociétés, ces firmes qui dirigent le monde. Elle est mise, voilà, là pour nous influencer. Mais bon, franchement, enfin.
Bah, c'est exagéré. Dans ben, les deux, les deux portraits sont caricaturaux.
Les vidéos de Belo Monte qui sont aussi magnifiques, hein, on voit des salles d'ordinateurs super classe, genre l'an 3000. Bon, ça va, je pense pas que ça va amener ça dans les petits villages non plus, quoi. Et justement, toi, tu es anthropo, donc tu vas justement au ethno, hein, on en discutait avant, c'est un peu les deux la même chose. Tu vas justement au cœur, donc toi, tu as la possibilité de voir, entre guillemets, la réalité, parce que ce sera toujours par tes yeux, donc une forme.
Exact.
Il y a une forme d'altération de toute façon, mais comment on fait, nous, en Europe, pour savoir comment voir? Parce que là, on parle de Belo Monte, mais c'est le cas dans énormément d'autres choses. On est bombardé d'informations de tous les côtés, sur Internet, de vidéos chocs, sur des Indiens d'un côté, des Mexicains de l'autre, des machins. Finalement, on ne sait plus où donner de la tête. Et surtout, on a l'impression que c'est tellement trafiqué des deux côtés que moi, je comprends tout à fait les gens qui disent, de toute façon, on nous ment, c'est des bêtises, oui, les grosses firmes, machin. Et il y a un rejet presque total du truc. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un avis équilibré sur la chose et quand on veut vraiment s'y intéresser, quoi? Moi, je trouve très compliqué pour moi, par exemple, de savoir quoi penser, quoi.
Bah, c'est assez difficile parce que les discours auxquels on a accès, ça va être des discours soit qui militent contre le projet, soit qui militent pour. Donc forcément, ils sont ils sont déformés pour correspondre au message. Et c'est vrai que trouver des je vois rien que moi. Par mon expérience, avant d'aller donc en Amazonie, j'ai étudié pendant un an depuis chez moi à l'université le sujet pour savoir un peu où j'allais, tout ça. Et ça n'a rien à voir quand je suis arrivée sur place. Quand tu vois toute la médiatisation qui est faite, tout ce qui est dit, etc., tu te crées une image et tu as l'impression que la mobilisation est un peu partout. Tu vois que ça bouillonne sur place, alors que sur place, ça bouillonne pas du tout, quoi.
Mais t'as trois personnes autour d'une table.
Ouais, parce que les gens sur place, ils vont tous te dire que le barrage, c'est pas bien, ça risque de faire des problèmes, ils savent pas trop comment le vivre. Mais les gens sont surtout à essayer de survivre au présent, quoi. Et n'ont pas forcément non plus les connaissances nécessaires pour appréhender le problème, et du coup, continuent à vivre leur existence. Enfin, moi, je sais que quand je suis arrivée au début, je me suis dit, mais c'est pas possible, je suis pas au bon endroit, quoi. Et puis, par contre, t'as des petits signes, voilà, tu vas avoir les coupures d'électricité, tu vas avoir des voitures qui passent avec le logo Bellomonte, des logos par-ci par-là, des trucs. Mais en soi, localement, quand t'arrives, ça n'a rien à voir, voilà, avec des Indiens pleins de, comme tu dis, plein de plumes, qui avec des gros slogans en train de crier dans les rues et d'attaquer les chantiers tous les jours, quoi. Ça arrive, mais c'est sporadique, quoi. La mobilisation se joue énormément dans la sphère médiatique et politique. Donc sur place, c'est vrai que c'est différent, c'est plus contrasté. En même temps, c'est beaucoup plus riche aussi. Parce que t'as beaucoup plus de choses, beaucoup plus de gens différents, etc. Mais pour trouver ces informations, c'est vraiment compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué, je saurais pas quoi te conseiller, parce que lire, voilà, tout ce qui est du militant avec du recul, et puis après, si t'as la chance de trouver sur le sujet qui t'intéresse quelque chose d'anthropologique ou de sociologique, déjà, t'as plus de chances de te rapprocher d'une certaine objectivité, quoi. Mais c'est pas forcément évident, c'est des longues heures de recherche.
Oui, puis bon, accessoirement, c'est un métier. Hein.
Accessoirement.
Voilà, enfin, je veux dire, on ne peut pas
Non,
résumer
c'est
des
difficile.
années. Et même toi, je suppose, justement, tu disais que tu te posais la question. Alors, on va peut-être parler en dernier, maintenant, on s'approche gentiment des 1h10 d'émission, je pense. Ton documentaire, justement, qu'est-ce que tu vas amener comme regard là-dessus? Parce que, justement, tu as certainement un avis personnel, sans
Ouais.
doute, hein, comme tout le monde. Comment est-ce que tu vas faire pour nous rendre de ça? À quoi ça va ressembler? Est-ce que ça va être du militantisme pour ou contre? Comment ça va se passer exactement?
Bah, j'aimerais vraiment pas que ça soit militant. Après, à chacun de toute façon d'interpréter les images. Mais voilà, moi, ce que j'aimerais vraiment faire, c'est justement aller au-delà de ce voile du conflit pour voir comment vraiment vivent les gens sur place, comment eux considèrent leur existence et comment ils voient leur avenir et comment ils le construisent avec le barrage ou sans le barrage, mais comment ils le construisent et comment c'est sur place, quoi. Parce que finalement, c'est pas sur place, c'est pas juste une lutte pour ou contre, quoi. Il y a tout un tas de choses. On essaye de faire des choses en parallèle, justement, des alternatives, de mettre en valeur le patrimoine naturel. Par exemple, là où j'étais, c'était les tortues. C'est la plus grande plage de ponte de tortues d'Amazonie qui est pas très loin en aval du barrage. Donc, ils essayent de faire des choses comme ça. Donc, c'est vraiment d'aller au plus près des gens, quoi. De justement casser toute cette image de l'Amazonie telle qu'on l'a dans certains médias orientés et proposer quelque chose de, je l'espère, un peu plus vrai et en donnant vraiment la parole aux gens, quoi. Le top, c'est j'aimerais qu'il n'y ait même pas de voix off et que ce soit...
Que tu diriges avec les images et qu'on se laisse transporter.
Amener les gens à réfléchir, mais sans imposer une réflexion ou une interprétation, quoi.
C'est intéressant, c'est assez fou hein, dans la villa du Grand Bivouac. Il me semble qu'on est tous vraiment intéressés par. Forcément, on est jeune, donc on est à la quête de la vérité et on pense la trouver, alors que les générations avant nous se sont certainement dit la même chose et on les critique actuellement. Donc c'est rigolo aussi de constater la relativité de ce qu'on va faire. Mais je trouve que c'est vraiment intéressant justement d'avoir justement des vraies images. Voilà, de l'endroit, parce que finalement, on en trouve très peu. Les reportages qu'on voit sur la région sont souvent très très cotes. Hein. C'est-à-dire, on a une personne qui nous parle depuis un bureau de chiffres ou de machin.
Ouais.
Après, on a une vidéo, je sais pas, de tracks en train de bousiller des arbres ou de mecs en train de faire du béton. Après, ça cut. Après, on a un Indien dans un arbre. Après, ça cut. Et du coup,
C'est
c'est
ça.
impossible de se donner une idée de comment est vraiment la vie là-bas, de comment est la région, quoi.
C'est
C'est
ça.
ça qui est fou,
Alors
quoi.
que c'est super intéressant et
Puis
que
ça paraît
c'est...
simple en plus de se balader avec une caméra là-bas, quoi. Je veux dire,
Ouais.
les mecs étaient là-bas, donc il suffit juste qu'ils tournent la caméra, pas dans le
C'est
sens
ça.
du barrage, mais dans le sens des gens qui
C'est ça.
vivaient à côté, ce qui me semble être.
Et les gens demandent que ça, ils sont très ouverts. Enfin, j'ai été accueillie là-bas. Enfin, c'était juste merveilleux. Bon, ils comprenaient pas trop comment ça pourquoi j'étais là. Ils arrêtaient pas de me dire, mais t'es française, tu viens de Guyane? Je disais non, de France, d'Europe. Je fais, mais comment ça, d'Europe? Je dis, ouais, d'Europe. Je fais, mais pourquoi tu viens chez nous? Et du coup, de voir que j'étais là, ils m'ont tout de suite intégrée, ils ont tout de suite vraiment partagé leur manière de vivre, etc. Et c'était génialissime, quoi. Je trouve ça plus intéressant de montrer ça plutôt que de montrer une image déformée de l'endroit, quoi. Y a rien à cacher, quoi. C'est beau, quoi.
Ouais, puis accessoirement, ça nous donne des informations aussi sur d'autres endroits dans le monde comme ça, avec d'autres situations qui se passent.
C'est
ça. Que c'est vraiment passionnant. Ouais. Ben voilà, j'espère qu'on vous a convaincu de regarder son futur documentaire qui sortira en 2018. On espère bien avant, hein, bien sûr. Puis on aura de toute façon l'occasion de te suivre sur ton blog. Justement, où est-ce qu'on peut te suivre? Alors, c'est un peu compliqué pour les non-tweeters et tout. Je te donne l'ordre de régler ça jusqu'à que je sorte le podcast. Voilà, pour que les gens puissent te suivre. Non, mais c'est vrai que, accessoirement, on parle beaucoup voyage sur VoyageCast, hein, forcément, c'est le titre du podcast. Il y a une sphère de blog voyage qui est vraiment très étendue en France, hein, avec pourrait trouver beaucoup de blogs qui analysent des hôtels, des endroits où aller, qui sont informativement très intéressants. C'est vrai que je trouve qu'il manque parfois un regard un peu plus, entre guillemets, sérieux, sans se prendre la tête, mais en faisant quand même un petit peu d'entrepôt, et je trouve très impressionnant et très bien qu'il y ait des gens comme toi qui puissent nous parler voyage, parce que finalement tu voyages quand même, et tu vas certainement nous faire rêver aussi avec certaines photos, parce que l'Amazonie c'est quand même joli, hein. Et je trouve que c'est important d'avoir ça, et pour l'instant, il me semble dans la sphère blogging voyage, il n'y a pas trop cet équilibre-là. Je suis content qu'il y ait des gens comme toi, comme d'autres aussi de la villa, et comme d'autres aussi, qui essayent de bloguer autrement, et qui apportent du coup un équilibre bénéfique pour tout le monde, je pense. Et qu'est-ce qu'on a à dire? Ben, où on te retrouve sur ton blog? Dis-nous le juste le nom de ton blog, le nom de ton projet peut-être?
Alors, le nom de mon projet, c'est le Chimbalaye Project. Et mon blog, donc c'est mon nom, anne-laure.pafenols.wordpress.com.
Ok, ce sera noté.
Faudra l'écrire parce que mon nom est absolument impossible à deviner comme ça.
Exactement, je me trompe chaque fois quand je rentre dans la barre d'adresse, c'est une horreur. Heureusement que j'étais dans mes favoris, bien sûr. Alors on se dit à la prochaine, j'espère qu'on aura l'occasion de repartager sur ce sujet-là ou sur d'autres. D'ailleurs, on est en petite collaboration sur un projet secret pour la 3e année de VoyageCast. Tadatatin, et voilà, exactement, il fallait l'annoncer pour le 50e numéro.
Et
je suis
ouais.
Très content de t'avoir reçu pour ce 50e numéro quand même. Ça passe le temps, hein, comme on a dit, pour une idée un peu débile que j'ai eue un jeudi soir parce que je m'ennuyais. Voilà où on en est à parler de Belo Monte, d'Amazonie et de sauver les Indiens. Je trouve ça incroyable.
Ouais.
Et voilà, ça fait partie, voilà, toutes ces rencontres. C'est génial. Et ben, on se dit à la prochaine. Et puis, en attendant, et ben, passe une bonne soirée.
Bah, toi aussi. On se voit à la villa.
Exactement. Allez, à ciao, bonsoir.
Ciao.
Yaïn, tout bon? Oh, alors, voyons. Je ne suis pas d'ici.
Oh, Nico! C'est un touriste!
Ah ouais? T'as pas tellement l'air?
C'est vrai? J'ai pas l'air?
Sauf que t'as la méga bouse de pigeon sur le bec, mec!
Ah non, c'est pas ça! C'est de l'écran total!
Alors, t'es là pour le carnaval?
En fait, je suis là pour rencontrer une jeune fille.
Wow, une petite meuf!
Waouh! Je vais te filer un conseil, c'est toi qui dois faire le premier pas.
Les brésiliennes, elles craquent pour les mecs qui assurent.
Ah, je vois.
Et encore merci à Anne-Laure d'être passée sur VoyageCast, c'était vraiment génial de la recevoir et de parler avec elle. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié cet épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager, que ce soit sur Facebook, Twitter ou n'importe quoi. N'hésitez pas non plus à venir nous poser des questions, que ce soit sur le blog voyagecast.ch, sur Twitter, sur Facebook, par Pigeon Voyageur, pourquoi pas. On attend vos remarques et on répond volontiers à vos questions. Alors pour une fois, ce n'était pas un film qui introduisait l'épisode. C'était la voix de Vincent Cassel pendant une petite vidéo qui a été tournée justement de propagande, on peut dire, anti-Belo Monte. Cette vidéo se trouve sur VoyageCast si vous avez envie de voir justement ce dont on a parlé. L'extrait de fin est tiré du film d'animation Rio, qui est vraiment sympa, assez drôle. On y voit aussi un peu de forêt, c'est un peu plus joyeux quand même que le thème de l'épisode. Ça vaut vraiment le coup de le regarder et pas seulement pour les enfants. Et puis, la musique d'intro, et qui va clôturer aussi cet épisode, s'appelle Divergence et a été fait par l'artiste The Black Parrot, que vous pouvez trouver sur Jamendo. Là aussi, les liens sont sur voyagecast.ch. Le prochain épisode sera sur le voyage à pied au Japon. J'ai eu le plaisir de recevoir Ahala du blog Engaging in Japan, et puis on a parlé justement de son tour du Japon à pied et des quelques marches qu'il a déjà effectuées. On avait déjà pas mal parlé de Japon sur VoyageCast, c'était avec Misaki, mais cette fois-ci on se rapproche un peu plus de la nature et de l'humain grâce à la marche à pied. Encore un chouette épisode qui va, j'espère, vous inspirer pour vos prochains voyages. Alors on se dit à dans 2 semaines, et puis en attendant, profitez, voyagez, à ciao, bonsoir.